Chapitre 12. Éponine regardait par la fenêtre. Le réseau serré des CG couvrait la pente de la colline.
« Alors, qu'est-ce que tu en penses ?»
demanda Kimberly.
« La vue me plaît. Quand tout aura été planté, on verra des arbres, du gazon et peut-être même quelques écureuils. »«
Je sais pas. C'est bien plus petit que l'appart de Positano. » Et j'avoue que j'hésite à m'installer ici, à Hakone, à cause de tous ces orientaux.
Il serait temps de te décider, ma belle. Hier, tu ne m'as pas écouté quand je te disais de faire plusieurs choix. Sept couples lorgnaient ce logement de Positano, ce qui n'est pas surprenant vu qu'il n'en restait que quatre dans tout le village. Et la chance ne nous a pas souri. Si on excepte les pioles minuscules aménagées au-dessus des boutiques de la grande rue de Beauvois, où je refuse de m'installer parce que j'estime qu'on a droit à un minimum d'espace vital, il ne reste des appartements vacants qu'ici et à San Miguel, où se sont déjà regroupés tous les Blacks et les Hispaniques.
Éponine s'assit dans un des fauteuils du séjour de ce petit trois pièces. L'ameublement était modeste mais suffisant avec deux sièges, un divan marron et une table basse. Kimberly Henderson faisait les 100 pas.
Désolé, Kim. Mais j'ai tant de choses à l'esprit que j'arrive pas à me concentrer. Où sommes-nous? Qu'est-ce que nous fichons ici?
Seuls 3 jours s'étaient écoulés depuis que le commandant Macmillan les avait réunis pour leur annoncer qu'ils ne s'installeraient pas sur Mars, mais à bord d'un vaisseau construit et aménagé par des extraterrestres dans le but d'observer des terriens. Kimberly alluma une cigarette, haussa les épaules et grommela.
Je ne connais pas les réponses à ces questions, mais je sais que si on ne se décide pas rapidement, nous devrons nous rabattre sur les trucs dont les autres n'auront pas voulu.
Éponine regarda son ami et soupira.
C'est pas juste. Les passagers de la Pinta et de la Niña ont fait leur choix avant notre arrivée. Ils ne nous ont laissé que des merdes.
Tu t'attendais à quoi? La Santa Maria transportait des ex-détenus. Il est logique qu'on leur refile les restes. Mais au moins, nous sommes libres.
« Dois-je en déduire que tu veux demander cet appartement ?»«
Tout juste, et prendre une option sur ce qu'on a visité ce matin près du marché, au cas où celui-ci nous passerait sous le nez. Si aucun domicile ne nous est attribué lors du tirage au sort de ce soir, nous serons vraiment dans de sales draps. »«
J'ai fait une erreur, »
se reprocha Éponine.
« J'aurais jamais dû l'accepter comme colocataire. Il est vrai que les pioles pour personne seule sont encore plus pourries. »
Il lui fallait du temps pour s'accoutumer au changement. Kimberly avait eu une vie mouvementée avant d'être condamnée pour meurtre à 19 ans, mais Éponine avait bénéficié d'une enfance et d'une adolescence relativement calmes. Elle avait grandi dans un orphelinat de la région de Limoges jusqu'à l'âge de 17 ans. Elle ne s'était pas portée volontaire pour la colonie Lowell avec enthousiasme, mais c'était pour elle le seul moyen d'échapper à la réclusion à perpétuité. Sa candidature avait été retenue à cause de sa bonne connaissance de l'anglais, de sa conduite exemplaire lors de sa détention et de son niveau d'études qui lui permettrait de faire partie du corps enseignant. L'adrénaline l'avait étourdie quand Mars était apparu au-delà de la baie d'observation de la Santa Maria. Elle était sur le point de prendre un nouveau départ sur un autre monde. Les gardes de l'ASI leur avait alors annoncé qu'ils ne débarqueraient pas sur Mars comme prévu. Leur vaisseau s'amarrerait à une station en orbite autour de Mars. Éponine s'était inquiétée, car on ne trouvait dans les brochures mises à la disposition des futurs colons aucune référence à une telle installation. Les autorités avaient attendu que les opérations de débarquement du fret et des passagers soient terminées pour leur fournir des explications complémentaires, et la plupart d'entre eux pensaient que Macmillan leur avait débité un tissu de mensonges.
« Ils croient pouvoir nous faire gober que ce vaisseau et ses robots ont été construits par des E.T. »
avait grommelé Willis Meeker.
« Ils nous mènent en bateau. Ils testent une prison d'un nouveau genre, voilà tout. »« Tu oublies les autres mecs ?»
avait rétorqué Malcolm Peabody.
« Ceux qui sont venus à bord de la Pinta et de la Niña, ce sont pas des tolards. Si sa théorie était la bonne, qu'est-ce qu'il ficherait avec nous?
Comment veux-tu que je le sache? Mais je suis sûr que ce Macmillan nous a débité des bobards. »
Éponine oublia le passé et accompagna Kimberly au centre administratif où elles se déclarèrent intéressées par les trois appartements d'Aconé. Cette fois, la chance accepta de leur sourire lors du tirage au sort et elles obtinrent le logement qui figurait en tête de leur liste. Elles emménagèrent dans le trois pièces de l'orée de la forêt de Sherwood, puis se présentèrent au bureau de placement. Comme la Pinta et la Nina étaient arrivées bien avant la Santa Maria, des places avaient été réservées pour les ex-détenus. Kimberly, qui avait fait ses preuves en tant qu'infirmière, obtint immédiatement un emploi à l'hôpital. Après s'être entretenue avec le proviseur et des professeurs du lycée central, Éponine accepta un poste dans cet établissement. Il lui faudrait prendre le train pour aller à son travail, alors que le collège d'Aconé n'était qu'à deux pas de chez elle, mais elle avait trouvé ses collègues très sympathiques lors de ses entrevues. Les médecins ne regardaient pas d'un bon œil leurs deux nouveaux confrères. Surtout le docteur Robert Turner, qui avait été condamné pour meurtre. Cependant, il fit rapidement la preuve de ses capacités et fut élu à l'unanimité directeur de l'établissement. Sidéré et ravi, il prit dans le cadre d'une brève allocution l'engagement de se dévouer corps et âme à sa tâche. Dans ce but, il suggéra au gouvernement provisoire du Nouvel Éden de soumettre chaque citoyen à un check-up complet pour une mise à jour de son dossier. Sa proposition fut acceptée et ce furent des tiassos qui procédèrent à ces examens dont des médecins humains analysaient les résultats. L'infatigable docteur Turner entreprit simultanément de créer avec des Einstein un système informatisé de surveillance médicale. Un soir, trois semaines après l'amarrage de la Santa Maria à Rama, Éponine était seule chez elle. Kimberly avait un emploi du temps chargé et lorsqu'elle n'était pas de permanence, elle sortait avec Toshio Nakamura et sa bande. Quand le vidéophone bourdonna, le visage de Malcolm Peabody apparut sur l'écran. « Éponine, dit-il, j'aurais une faveur à te demander.
Que t'arrive-t-il, Malcolm ?
Le docteur Turner m'a contacté il y a 5 minutes. Il a relevé des anomalies dans mon bilan de santé et veut que j'aille passer un examen plus approfondi à l'hôpital. » Comme il n'ajoutait rien, elle déclara
« Je ne vois pas très bien en quoi ça me concerne. »
« Eh bien, c'est certainement sérieux. Il veut me voir d'urgence. Pourrais-tu m'accompagner ?»«
Maintenant ? » ?»« Sais-tu qu'il est près de 23 heures ?»
Kimberly disait toujours que Turner travaillait sans relâche, comme les tiassos. Mais Éponine était fascinée par ses beaux yeux bleus.
« Entendu, » fit-elle. « On se retrouve à la gare dans 10 minutes. »
Elle ne sortait que rarement après la tombée de la nuit. Elle consacrait ses soirées à préparer ses cours du lendemain. Un samedi, elle était allée avec son amie Nakamura et des membres de sa bande dans un restaurant japonais. Mais elle n'avait apprécié ni la nourriture, ni la compagnie de tous ces orientaux qui, sous l'emprise de la boisson, avaient tenté de la séduire. Kimberly lui avait reproché de faire des manières, mais elle refusait depuis de sortir en leur compagnie. Elle atteignit la gare avant Malcolm. Et en l'attendant, elle s'étonna que la présence des humains eût tant changé ce village.
La Pinta est arrivée il y a 3 mois, la Niña 5 semaines plus tard, et on trouve déjà des commerces partout. Dans 1 ou 2 ans, le Nouvel Éden sera identique à la Terre.
Malcolm la rejoignit. Pendant le court trajet en train, il s'avéra tendu et prolixe.
« C'est certainement mon cœur qui déconne, Éponine. » Je ressens des douleurs depuis la mort de Walter. Au début, j'ai cru que c'était psychosomatique.
Ne t'habille pas, lui dit Éponine. Je parie qu'il n'y a rien de sérieux.
Ses paupières refusaient de rester ouvertes. Il était plus de 3 heures du matin et Malcolm sommeillait à côté d'elle, allongé sur la banquette.
Que fait ce toubib ? Il a pourtant dit qu'il n'en aurait pas pour longtemps.
Le docteur Turner avait ausculté Malcolm avec un stéthoscope électronique avant de l'emmener dans un autre secteur de l'hôpital pour procéder à un examen plus approfondi. Son patient était revenu dans la salle d'attente 1 heure plus tard.
« Êtes-vous une amie de Monsieur Peabody ? »
fit une voix. Elle avait dû sommeiller, et quand sa vision redevint nette, deux yeux bleus la fixaient.
« Oui ?»
confirma-t-elle. Elle avait répondu à voix basse pour ne pas réveiller l'homme qui dormait sur son épaule.
« Il est condamné. Il ne lui reste pas 15 jours à vivre. »
Elle sentit son sang s'emballer dans ses veines.
« Ai-je bien entendu ? Malcolm va mourir dans moins de 2 semaines ?»«
Il aura besoin d'un soutien, » ajoutait le docteur Turner.
« Pourrez-vous l'aider ?»« Je l'espère. »
Malcolm bougea.
« Nous devons le réveiller, » dit le médecin.
Nulle émotion ne se lisait sur son visage. Cet homme venait de prononcer une condamnation à mort sans manifester la moindre compassion.
« Kim a raison. C'est un automate au même titre que les Tiasso. »
Elle les accompagna dans une salle pleine de matériel médical.
« Nous sommes bien équipés ici, » dit Turner. « Nous manquons de personnel, mais pas de moyens. »
Ils approchèrent d'un cube transparent d'environ 1 mètre de côté.
« Voici ce qu'on appelle un reproducteur d'organes. Il reconstitue avec fidélité les principaux composants du corps humain. Ce que vous voyez actuellement est une image holographique de votre cœur, monsieur Peabody. Elle a été prise il y a 1 heure et demie, quand j'ai injecté des traceurs dans votre système circulatoire. »
Il regarda son patient droit dans les yeux et ajouta
« La méthode est absolument fiable, monsieur Peabody. Je ne peux malheureusement pas avoir fait une erreur de diagnostic. »
La peur écarquillait les yeux de Malcolm. Le médecin le prit par la main et le guida vers le cube.
Regardez derrière votre cœur, dans la partie supérieure. Vous voyez ces membranes et ces tissus qui s'effilochent ? Ce sont vos muscles cardiaques en cours de décomposition.
Malcolm fixa l'image pendant ce qui parut durer une éternité, puis il baissa la tête.
Vais-je mourir, docteur ?
Oui, monsieur Peabody. Sur Terre, nous pourrions tenter une greffe, mais ici, c'est hors de question. Nous n'avons ni l'équipement nécessaire ni un donneur.
Malcolm pleurait. Éponine le prit par les épaules et l'imita.
« Veuillez m'excuser de vous avoir fait attendre si longtemps, » ajoutait le médecin. « Mais je devais avoir des certitudes. »
Peu après, alors qu'il se dirigeait vers la porte avec Éponine, Malcolm se tourna pour demander à Turner
« Que dois-je faire ?»«
Tout ce qui vous plaira. »
Après leur départ, Turner regagna son cabinet. Les diagrammes et un exemplaire du dossier de Malcolm Peabody encombraient son bureau. Le médecin était inquiet. Il avait la quasi-certitude, il ne serait fixé qu'après la mort et l'autopsie de son patient, d'être confronté à la maladie qui avait emporté Walter Bracken à bord de la Santa Maria. Ces deux hommes étaient inséparables depuis leur incarcération dans un centre pénitentiaire de Géorgie. Qu'ils aient la même chose ne pouvait être un effet du hasard, et il en découlait que c'était contagieux. Robert Turner secoua la tête, angoissé. Malgré sa lassitude, il dressa la liste des références sur les virus cardiaques qu'il consulterait dans la banque de données avant de s'assoupir à son bureau. Un quart d'heure plus tard, un bourdonnement l'éveillait en sursaut. Une Tiasso l'appelait des urgences.
Deux Garcia ont découvert le cadavre d'un homme dans la forêt de Sherwood. À en juger par les images qu'elles nous ont transmises, il est nécessaire que vous procédiez personnellement à son autopsie.
Le docteur Turner alla se laver les mains, renfila sa blouse et arriva au service des urgences avec les deux Garcia qui amenaient le corps. Bien qu'habitué à voir des victimes d'atroces mutilations, il ne put s'empêcher de détourner les yeux. Seul un lambeau de chair attaché au tronc, la tête sectionnée et le visage mutilé étaient méconnaissables. Quant aux parties génitales, seule une plaie sanglante était visible à leur emplacement. Deux Tiasso se chargèrent de laver et de préparer le cadavre pour l'autopsie. Turner alla s'asseoir à l'écart afin de rédiger le premier acte de décès du Nouvel Éden.
« Savez-vous comment il s'appelle ? »
demanda-t-il au biote. Une Tiasso trouva une ID card dans les vêtements lacérés.
« Danny !»
répondit-elle.
« Marcello
Danny.